12h, 13h30, les midis de culture, Nicolas Herbeau.
Nous parlons de fiction littéraire ce midi avec deux romans qui viennent d'être publiés. Pour le premier, je suis certain de la forme et l'autrice n'en est pas à son coup d'essai. Journaliste, scénariste et romancière, Simonetta Greggio publie Mes nuits sans Bardot, sans Brigitte Bardot, fiction qui veut montrer la modernité du mythe bébé. Le second, temps réel, est moins évident à définir, d'autant que son auteur Jean-Christophe Bailly n'a jamais commis de roman et qu'il est précisé tout de suite dès la quatrième page de couverture. Le pari de ce livre est de constituer le poème comme une forme entière et autonome. Nous allons tenter d'y voir plus clair avec nos critiques. Anne Dugin, bonjour.
Bonjour.
Rédactrice en chef de la revue Esprit, votre recueil de poèmes Noyau manquant est paru le 4 avril aux éditions Gallimard, je le précise. Face à vous, Virginie Bloch-Lenné, bonjour Virginie.
Bonjour Nicolas.
Vous êtes critique littéraire à Libération et au magazine Elle. Soyez toutes les deux les bienvenues dans les Midis de Culture. Et comme je vous sens trépigné d'impatience, on commence par Mes nuits sans Bardot de Simonetta Greggio aux éditions Albin Michel.
Assise sur le muret de la madrague, je ferme les yeux. Tout est trop bleu. Le ciel, le portail, la mer qui bat tout près. On dirait un cœur, comme quand on pose la joue sur la poitrine de l'être aimé. Les estivants sont partis, les plages désertes, les villas fermées. Moi, je reste là, dos appuyé à l'eucalyptus. Tranquille, comme en prière. Tranquille, comme endormie, ma chienne à mes côtés.
Mais qui est vraiment Brigitte Bardot après une grande traversée diffusée sur France Culture à l'été 2020, la journaliste, scénariste et romancière Simonetta Greggio a choisi le roman pour poursuivre cette interrogation et tenter de trouver une réponse, de percer, dit-elle, les mystères qui entourent la star flamboyante. Là encore, la narratrice a donc choisi d'écrire des lettres à l'actrice. Chère Brigitte Bardot, tout à l'heure j'ai sonné à votre porte. Dans le calme du soir, aucune réponse, pas même un gardien ou un chien qui aboierait. La narratrice explique que des bruits courent sur sa prétendue mort. Si vous venez à manquer, Brigitte, lui écrit-elle, qui sera la plus belle désormais. Pour avoir accès à bébé, au mythe, la narratrice s'installe donc, comme on vient de l'entendre, à Saint-Tropez, tout près de la fameuse madrague, cette célèbre propriété de Brigitte Bardot sur la route des Calmiers. Alors qu'elle essaie de montrer en quoi et comment bébé a été moderne avant l'heure, des figures apparaissent, des hommes, Gainsbourg, Trintignant, des femmes aussi, Colette, Yourcenar, une variété qui, assemblée, doit concourir à éclairer les différentes facettes de Brigitte Bardot. Simonetta Greggio y est-elle parvenue, selon vous, Virginie Bloch-Lenné?
Alors oui, même si c'est une traversée subjective de la vie de Brigitte Bardot, elle y parvient par un procédé qui rend le roman, enfin, qui donne son charme et son intérêt au livre, qui est cette alternance entre une lettre de la narratrice et un autoportrait de bébé qui se raconte et ces lettres de la narratrice dessinent un portrait d'une femme qui ressemble un peu à Brigitte Bardot, qui est effrontée, libre, seule. C'est elle, la narratrice, sans homme, sans enfant, qui a été abandonnée, qui a été dure avec des hommes. Donc c'est un portrait de femme amoureuse. Et ce qu'elle parvient, je trouve, à montrer, c'est il y a tout le temps une dualité dans le livre. Brigitte Bardot, c'est celle qui sait tout, celle qui ne sait rien, celle qui tombe follement amoureuse et quelques semaines plus tard qui lâche un homme. Il y a une phrase assez jolie, elle dit, elle écrit Simonetta Greggio, quand on fait du mal à quelqu'un, on lui en veut. Elle dit, c'est comme ça, c'est désolant. Donc on voit bien le caractère d'une femme qu'elle ne rend pas très sympathique, mais dont elle montre qu'elle a été traquée comme un animal. Donc voilà, on voit une femme pas très sympathique, mais intéressante.
On parle de ce portrait simplement pour bien comprendre. Quelle est cette Brigitte Bardot qu'elle raconte? Est-ce que c'est celle d'aujourd'hui? Est-ce que c'est celle de la grande époque? Est-ce que c'est celle de ses débuts? Quel est le portrait qui nous apparaît?
C'est surtout celle... Alors Brigitte Bardot, elle est née en 19... Elle va fêter ses 90 ans en septembre, elle est née en 34, elle arrête de tourner en 73. C'est surtout la Brigitte Bardot, oui, des débuts et de l'âge d'or. Et puis, il y a ensuite le moment où elle s'éteint. Et là, il y a comme un silence de la part de Simonetta Greggio et de la narratrice. C'est une femme dont on sait qu'elle adore les animaux, qu'elle préfère peut-être les animaux aux humains. Et donc, c'est surtout l'âge d'or de Brigitte Bardot.
Anne Dugin, comment est-ce que vous avez lu, vous aussi, ce portrait?
Alors moi, je souscris hein, à tout ce qui vient d'être dit sur cette forme et sur ce double portrait, en fait, qui donne son intérêt, sa dynamique au texte. Mais j'avoue avoir été déçue. J'avais bien aimé le livre Bellissima, qui était paru il y a quelques années, de Simonetta Greggio, où elle tissait ensemble, finalement, la grande histoire et la petite, sa jeunesse à elle, dans l'Italie de la deuxième moitié du XXe siècle et celle du pays, et une réflexion finalement assez forte sur la violence masculine dont elle était victime, notamment à travers le figure de son père, mais dont elle montrait bien comment il y avait quelque chose là qui avait été au cœur du fascisme et qui restait comme une gangrène dans ce pays. Bon, là, je trouve qu'en comparaison, la toile de fond est quand même trop mince, enfin, c'est la jet set des années 60, 70, et finalement le principal fil conducteur de ce récit, alors ça c'est assez joli, elle utilise des photos, en fait, elle part de photos complètement iconiques que tout le monde a en tête de Bardot, à travers lesquelles elle fait défiler comme l'histoire, comme un carrousel, mais c'est d'abord son rapport aux hommes et la succession des hommes qui fait la trace du récit. Et voilà, moi j'ai c'est peut-être parce que le sujet ne me passionne pas. Oui, la figure est intéressante, il y avait sûrement des choses à redécouvrir, mais elle ne raconte pas de grande histoire à travers ça, et ça m'a un petit peu déçue. Et puis, même si c'est original, je crois que j'ai trouvé étrange, en fait, cette fausse relation épistolaire, puisque finalement
Bardot ne répond jamais.
Il y a quelque chose de qui met presque un peu mal à l'aise, en fait, dans cette insistance qu'elle a à reprendre cette conversation qui, en fait, n'a jamais lieu, et en réalité à l'imaginer. Et on voit bien qu'en fait, il y a quelque chose d'un parallèle entre elles deux, qu'elles cherchent à faire toujours, que des femmes qui n'ont pas été comprises, des femmes belles, toutes les deux, qui plaisent aux hommes, toutes les deux, et avec une ambivalence par rapport à ça, est-ce que c'est une chance, est-ce que c'est un fardeau, comment on est regardé à travers ça, comment on est jugé à travers ça. Et voilà, Bardot a représenté manifestement pour la toute jeune fille, on le devine, qui a été Simonetta Greggio, une forme d'idole, une forme d'icône, et la figure d'une liberté qu'elle a elle aussi cherchée. Mais voilà, je trouve que l'effet de miroir qui s'installe m'a mis un tout petit peu mal à l'aise.
Vous avez été mal à l'aise, Virginie Bloch-Lenné, sur cette relation épistolaire notamment, et puis aussi sur ce récit, ce portrait par les hommes en quelque sorte?
Ça m'a pas mis mal à l'aise. Je trouve que parfois c'est un peu appuyé. C'est un féminisme peut-être un peu appuyé. Ou alors la femme qui n'a pas d'enfant, on a le droit de ne pas avoir d'enfant. Les femmes sans enfants sont mal jugées. C'est un peu appuyé. Moi ça m'a pas mis mal à l'aise, le fait qu'il y ait un silence de l'autre côté. Ça ne m'a pas agacée. C'est systématique, mais c'est aussi une façon de relancer, de raconter. Ah ouais. La vie de Bardot,
c'est un procédé qui fonctionne.
Ça allait. Alors, je trouve qu'elle en profite pour raconter, même si c'est des choses que l'on connaît, qu'on en a entendu, la façon dont s'est passé le tournage de La Vérité, dont Clouzot a maltraité Bardot. Elle raconte aussi le fait divers qui est à l'origine du film de Clouzot, qui est réalisé en 60. Elle raconte la façon dont Bardot a utilisé les paparazzi pour se séparer de Jacques Charrier lorsqu'elle a rencontré Samy Frey. Donc elle ouvre un peu les fenêtres. Il n'y a pas que elle deux. Elle fait des. Moi j'ai bien aimé qu'il n'y ait pas trop la toile de fond. Quand elle est là, ce sont des portraits. C'est par. Il y a un portrait très très méchant. Moi je trouve bien de Godard.
Bien et méchant donc.
Ouais. Oui. Donc un homme dont les yeux tout d'un coup deviennent vitreux, qui était odieux avec Bardot sur le tournage du Mépris parce que il sentait Anna Karina lui échapper, il n'était pas content que ce soit Bardot et il lui a fait refaire je ne sais plus combien de fois une scène pour qu'elle marche, il voulait la voir marcher comme Anna Karina. Donc j'ai trouvé que ça respirait quand même et je n'avais pas envie d'avoir encore une fois un tableau des années 60, 50 à Saint-Tropez. Elle le fait un petit peu en parlant de Sagan, parlant de Colette, voilà.
Anne Dugin, on est donc sur une forme de réhabilitation de la personne de Brigitte Bardot. En tout cas, il y a quelque chose du... voilà, quand elle explique Simonetta Grigio ce qu'elle a voulu faire, c'est on n'a pas arrêté de me dire tu es en train d'écrire ou tu es en train de raconter, de faire le portrait, d'imaginer le portrait de cette femme qui est, je cite, une vieille réac aujourd'hui. Est-ce que, du coup, on, voilà, il y a quelque chose peut-être de... comment dire, d'un rapport un peu filtré, en tout cas, peu critique de ce personnage.
Eh ben, pour le moins, oui. Ça, j'avoue que ça, c'est ce qui m'a le plus étonnée. On sent vraiment un désir de réhabiliter une figure dont Simonetta Grigio trouve manifestement injuste qu'elle soit mal aimée, voire un peu méprisée peut-être,
mais
pas que pour de bonnes raisons, par l'intelligentsia française, qui est voilà, Bardot, c'est pas quelqu'un d'intéressant. Bon, et ça, on sent qu'elle veut aller, elle veut déconstruire un certain nombre de clichés sur elle, et notamment, elle, je trouve que ce qui, sur ce quoi elle insiste, c'est finalement la façon qu'a eu Bardot d'être en réalité en avance sur son temps, comme elle le dit plusieurs fois, féministe. Avant que le féminisme n'ait non seulement ses lettres de noblesse, mais son armature théorique, sa vulgate, etc. Et notamment dans le rapport au corps et dans le rapport de l'exercice de cette liberté dans le rapport aux hommes. En avance, évidemment, sur la question de la prise de conscience de la souffrance animale, le combat pour le bien-être animal, le végétarisme, etc. Ça, elle le rappelle à de nombreuses occasions. Voilà, donc on sent qu'elle a le désir de faire un portrait plus nuancé. Mais, à mon sens, au prix d'un silence qui, moi, m'a gênée, en réalité, quand je suis une fois arrivée au bout, pas un mot sur la proximité avérée, publique, de Brigitte Bardot avec l'extrême droite. Or ça fait peut-être aussi partie de ce qui a fait que cette femme était en avance, malheureusement, sur la banalisation d'un certain nombre de ses thèmes et de ses sujets dans la société française. Et ça, j'avoue, ne pas comprendre qu'elle en ait pas parlé, d'autant qu'on pourrait même pousser encore et dire que finalement Brigitte Bardot, elle est une des premières figures à avoir représenté cette extrême droite dédiabolisée, qui aime les chats, qui défend les femmes, enfin vous voyez, et bon, là j'avoue avoir eu du mal à comprendre, surtout venant de quelqu'un, Simonetta Grigio, qui a travaillé sur le fascisme, qui a fait une grande traversée sur France Culture absolument remarquable sur Mussolini, et qui travaille sur ces résurgences contemporaines, sur la manière dont elle revient, dont elle mute. J'avoue une incompréhension.
Virginie Bloch-Aînée.
C'est vrai qu'il y a une ellipse pour le moins sur la Brigitte Bardot d'extrême droite réactionnaire. Le rapport qu'elle a aux animaux est mis en valeur, et il y a un silence sur le reste. Je ne sais pas non plus. Oui. Est-ce que c'est pour des raisons commercial ou voilà, parce qu'elle ne veut pas l'abîmer, je ne sais pas.
Il y a aussi l'idée de dire à l'époque aussi, parce qu'on s'en est pris à Brigitte Bardot au début de sa carrière, en tout cas au moment où elle était encore évidemment actrice et qu'elle jouait, sur voilà, elle ose parler, et c'est pour cette raison-là aussi qu'elle a été parfois dénigrée à ce moment-là. Donc c'est peut-être aussi l'idée de, c'est pour ça que je posais la question de portrait de quelle femme fait Simonetta Grigio dans ce livre. Est-ce que c'est effectivement aujourd'hui, c'est pas une autobiographie, c'est pas un biopic, c'est l'image de cette actrice, Brigitte Bardot, au moment de ses plus belles années, en quelque sorte.
Oui, alors ça, elle montre que c'est une femme, comme le disait Anne, qui a été en avance aussi parce qu'elle a réussi, elle achetait des biens immobiliers, elle gagnait très bien sa vie, et Simonetta Grigio se demande, la narratrice se demande comment elle faisait, puisqu'elle ne pouvait pas avoir de compte en banque, donc elle était effrontée, elle obéissait à une personne, c'était sa mère, apparemment. Mais ça, elle le met en avant, oui, c'est vrai qu'il y a un silence sur la personne pas sympathique qu'elle est devenue, et elle comprend ce manque de sympathie, elle comprend que Brigitte Bardot ne se montre plus, qu'elle se barricade. Voilà.
Nous reviendrons faire la fête aux crustacés de la plage ensoleillée, de la plage ensoleillée, de la plage ensoleillée.
Mes nuits sans Bardot, donc, de Simonetta Grigio, c'est aux éditions Albin Michel.
Les Midis de Culture. Nicolas Herbeau.
Et nous parlons à présent de Temps réel de Jean-Christophe Bailly aux éditions Seuil dans la collection Fiction et compagnie.
Il n'y aurait pas de commencement, pas d'autre solution que de prendre le train, Micheline ou TGV, en marche, à pas lent ou rapide, mais jamais compté. On irait vers la fin, mais il n'y aurait pas de fin, pas de fin non plus. Ce serait juste un passage, une traversée, le suivi d'un sillage, observé par l'arrière, secoué par les bannières, les fanions, disant « Reviens, reviens !» Mais tu ne reviendrais pas, ça ne reviendrait pas. Temps réel serait le titre.
Temps réel serait le titre, écrit Jean-Christophe Bailly avant de poursuivre quelques lignes plus bas. Et il y aurait même un programme, celui d'un advenir où le poème s'étonnait lui-même de ce qui lui arrive, selon plusieurs modes qu'il convient de préciser, mode simple, mode torsadé, furtif, didactique, ample, mode narratif, mode hanté, mode journal. Voilà, dès les premières pages, la réflexion que veut mener l'auteur, car si Jean-Christophe Bailly n'a jamais écrit de roman, ce n'était pas pour attendre ses 74 ans pour en écrire un et en publier un. Ce livre est donc un récit, c'est aussi et surtout un questionnement sur la littérature, sur ce qu'est aujourd'hui la poésie, aujourd'hui, mais aussi hier et peut-être demain. Anne Dugin, comment avez-vous accueilli ce recueil ?
Alors pas comme un roman du tout, ça je crois que, et d'ailleurs vous l'avez dit, je crois que c'est une forme qu'il n'a pas pratiquée et ce livre ne s'y inscrit pas plus que les précédents. C'est un texte qui est entre l'essai et le poème, qui ont pour cet auteur une parenté très grande en fait, et je pense que ça fait partie de la manière dont il conçoit le poème en réalité, comme très rattaché aussi à l'exercice de la pensée. On le verra, c'est peut-être ce qui le rend difficilement accessible parfois. Mais non, moi il me semble que, enfin, en tout cas en lisant les livres de Jean-Christophe Bailly, je me demande toujours si finalement il n'en écrit pas un seul, une sorte de grand texte dont il reprend le fil à chaque fois qu'il a d'autres choses à explorer et qui finalement ne s'achèverait jamais complètement. Et là, je crois que le fil, si vous voulez, de dans son œuvre, dont ce livre participe, c'est, vous l'avez dit, l'interrogation sur ce qu'est le poème. Et de ce point de vue-là, il s'inscrit vraiment en continuité d'autres textes comme La fin de l'hymne, dès 91, sur la matrice du romantisme allemand et l'impossibilité de chanter, aujourd'hui dans la modernité peut-être. L'élargissement du poème en 2015 ou Naissance de la phrase en 2020, plus près de nous. Et je crois que l'interrogation sans cesse relancée dans ces textes et qui est au cœur de celui-ci, c'est le mystère de l'expression. C'est qu'est-ce que c'est que cette éclosion du sens dans la langue ? Comment ça se passe ? Et finalement, c'est une réflexion sur le poème comme point avancé de cette éclosion du sens dans la langue. Alors, ce livre, il rassemble des textes poétiques, en fait, hein, en vers pour l'essentiel, et puis avec un texte introductif assez bien fait, je pense, enfin qui pose un certain nombre de questions. Ces poèmes ont été écrits en fait sur presque 30 ans. Ils sont cités, la date, ils sont datés dans le corps du texte. Mais je pense que le fait de les rassembler aujourd'hui, en tout cas moi je le lis comme ça, s'inscrit dans une interrogation qui est vraiment pour ici et maintenant sur ce que c'est que le poème dans un contexte, et on en dira peut-être un mot, où je pense que la poésie revient à la mode, pour le dire vite, c'est-à-dire qu'elle retrouve une existence sociale, médiatique, etc., qu'elle n'avait pas, ne serait-ce qu'il y a 5 ans. Et je pense que ça suscite en lui le besoin de faire un certain nombre de mises au point, et je crois que c'est une des fonctions de ce livre.
Anne Dugin nous parle d'un seul grand livre que Jean-Christophe Bailly écrit depuis les origines, en quelque sorte. Êtes-vous montée dans ce train de l'écriture, en quelque sorte, Virginie Bleu-Cléné ?
Non. Moi, j'ai deux problèmes avec ce livre. D'abord, le brouillage du genre qui est revendiqué dès, Anne l'a dit, un texte théorique
d'introduction.
Donc il fait glisser le poème vers le récit, récit de voyage, récit de rencontre, vers l'essai, vers la réflexion historique, et moi je trouve que ça alourdit le poème, et je trouve que c'est aussi un geste qui rappelle l'avant-garde, enfin qui était celui de l'avant-garde artistique du début du XXe siècle, et j'y vois pas d'audace. Anne a insisté sur la contemporanéité du travail de Jean-Christophe Bailly. Moi, j'ai l'impression que ce qu'il regarde en arrière, d'ailleurs, il est question, il renvoie un moment à l'avant-garde cinématographique des années 20 du XXe siècle. Donc je ne vois pas de modernité. L'autre problème que j'ai avec ce texte, c'est qu'il est ultra référencé. Il y a des citations tout le temps, il y a des noms propres, des citations, des parties de phrases qui sont en allemand ou en anglais, et je trouve qu'il y a un effet chameau dans la poésie, dans cette poésie-là. Donc c'est chameau, c'est la métaphore de Nietzsche, qui voyait l'esprit comme un chameau, cet animal qui se charge d'eau pour traverser le désert. Et en lisant ce livre, parce que c'est même pas un recueil, ce serait intime, moi, j'ai l'impression d'une accumulation et non d'une production. Et une accumulation, c'est une conception, je trouve, élitiste de la littérature. Je n'ai rien contre, mais là, je trouve que ça se montre beaucoup.
Vous êtes resté peut-être, du coup, à côté de ce livre. On va demander à Anne Dugin, justement, comment est-ce qu'on peut trouver des clés pour rentrer dans ce livre. Vous l'avez dit, ce sont des recueils. C'est en tout cas plusieurs poèmes qui ont été écrits à des périodes de sa vie qui sont différentes. Vous m'avez dit aussi tout à l'heure que c'était une poésie axée sur la pensée. Ça veut dire aussi que on peut pas rentrer, par exemple, par le prisme de l'émotion dans ces textes. Comment est-ce que vous voyez ça?
Alors ça, en effet, qu'on dise pas que c'est un recueil, je pense que ça lui irait très bien. Je crois que c'est pas comme ça qu'il concevrait de toute façon l'objet livre de poèmes. Et je crois effectivement que la porte d'entrée n'est pas l'émotion. Ça me paraît très clair. Je rebondis juste deux secondes sur ce qu'a dit Virginie, parce que je crois que c'est important. Oui, ce texte, comme beaucoup de ces textes, est complètement saturé d'intertextualité, parfois explicite, parfois on ne sait pas, on le voit pas.
On est exclu.
Il est fort probable que moi-même, il y ait un certain nombre de choses qui m'échappent. Moi, je suis ambivalente par rapport à ça. Comme Virginie, il est clair que je ressens, y compris pour moi, que ça peut faire obstacle. Ça peut faire obstacle dans l'accès à ce qu'il aurait à transmettre finalement en propre, à dire en propre. En même temps, il ne singe pas ce qu'on fait quand même, ce qui a été quand même très à la mode en poésie de manière générale, mais plus largement en littérature. Il ne feint pas l'ignorance. Vous voyez, avoir tourné le dos à la bibliothèque comme un geste fondateur, le narrateur des nourritures terrestres qui dit à Nathanaël, il faut oublier tous les livres pour pouvoir écrire, alors qu'en réalité, souvent, ça vient de gens qui sont eux-mêmes très érudits.
Donc c'est pas fin, ça.
Alors ça, voilà. Mmh. Là, pour le coup, on peut pas le soupçonner de feindre ça. Je pense qu'il dirait, enfin, je vais pas parler à sa place, mais que, en réalité, il assume le savoir et la connaissance comme faisant partie, finalement, du geste qui consiste à écrire. Et qui a finalement peut-être, alors quelque chose de, je dirais pas démocratique, je dis par opposition à l'élitisme, mais les références, on peut s'en saisir. On peut apprendre à les maîtriser si on le veut, etc., etc. Il ne feint pas de ne pas savoir ce qui le fait écrire entre guillemets. Mais je suis d'accord sur le fait que ça fait obstacle. Je connaissais pas l'image du chameau et je la trouve assez réussie. C'est-à-dire que finalement, sa voix à lui, ce qu'il aurait à dire lui, parfois,
nous
échappe un petit peu. Quoi, voilà. Après, sur la question de ce qu'il a à dire sur le poème. Moi, j'aime beaucoup quand même l'entrée en matière sur cette belle image de l'insecte au bout de la brindille qui
le penche. Sentiment, l'oscillation.
Oui. Absolument. Où il dit voilà, en fait ça met bien en scène ce qu'est la situation du poème qui est à la fois insignifiant et qui comme l'insecte et en même temps qui fait pencher le monde, qui peut vraiment faire pencher le monde comme cette brindille. Et cette idée que le poème est pris en tension entre savoir qu'il ne vaut rien, savoir qu'il est une toute petite chose dans le monde qui ne transformera jamais ni le monde ni la littérature, et en même temps qu'il sache qu'il a une responsabilité par rapport à la langue, par rapport à l'énonciation, par rapport à cette ce qui définit quand même la condition humaine. Et voilà, il a cette façon d'avancer sur une ligne de crête sur plein de sujets, sur ce qu'est la poésie aujourd'hui, que je trouve stimulante.
Virginie Bloch-Aîné, est-ce qu'il y a des images qui vous restent en mémoire après avoir lu ce livre?
Oui, il y en a quelques-unes. Et le sentiment, l'oscillation, moi aussi j'aime ce texte liminaire, mais il y a peu de moments où il y a cette délicatesse que dégage le mot oscillation. Il y a des moments où il n'y a pas de référence, et c'est très joli. Par exemple, il se trouve à un moment gare de Lyon, il va prendre le train, et il observe la foule et il écrit « Population mêlée, attente, passage, Bref rendez-vous, retrouvailles. Tout l'accordéon du roman social se plie et se déplie. Ça, c'est très joli. Et ensuite arrive Walker Evans et on retourne dans les citations et dans les références. Et voilà.
Vous avez d'être perdu du coup.
Oui,
c'est
oui,
ça, j'ai bien compris. Oui. Comment est-ce qu'on lit ce livre, du coup, Anne Dugin ? Il y a 230 pages à peu près, effectivement. Ça se lit peut-être pas d'une traite, ça se lit par petits bouts, comme on lirait un recueil, du coup, peut-être pas chronologiquement, on va piocher ce qu'on peut piocher au fur et à mesure.
Moi, je dirais qu'on peut s'y promener comme on se baigne dans une rivière. C'est-à-dire que il a une écriture que je trouve très, enfin qui m'évoque beaucoup le cours d'eau, quoi, qui charrie toutes sortes d'impressions, de sensations, de textes de nature différentes. On y plonge, on s'y trempe, on regarde la lumière trembler, et puis on sort et on y re-rentre un peu plus tard si on veut. Moi, ce que je retiens quand même et qui j'avoue me convainc, hein, complètement sur ce qu'est la poésie aujourd'hui. C'est l'idée d'un poème comme quête qui ne se stabilise jamais, qui tente de toucher ce cœur des choses, ce cœur de l'expérience, ce vide au cœur du temps, qui donne d'ailleurs son nom au livre,
temps réel.
Le temps réel, et qui pour autant jamais ne se stabilisera complètement. Mais ma différence de point de vue avec lui peut-être, c'est qu'il faut, en tant que poète, il faut continuer d'essayer, continuer de faire éclore le sens dans les poèmes, quand bien même on est sûr que c'est toujours sur fond d'une impossibilité, sur quelque chose qui reste provisoire.
Virginie, pour conclure.
Oui, il y a une autre image que j'ai trouvée jolie, c'est dans un poème qui s'appelle « Autobiogre ». Et pas autobiographie. Pourquoi il l'a pas appelé autobiographie? Bon, hein. Il explique de quelle façon ses souvenirs lui reviennent et c'est très joli. Il dit qu'ils ne reviennent pas sous la forme de je me souviens, mais pourtant ce n'est pas comme cela que ça remonte, revient, se fixe et repart en grappe, lâchant des ballons, des fleurs. Le passé n'a pas d'entrée, le présent n'a qu'un seuil. Ça, c'est très joli.
Extrait donc de ce livre Temps réel de Jean-Christophe Bailly aux éditions Seuil Collection Fiction et Compagnie. Vous pourrez assister à une rencontre à la Maison de la Poésie avec Jean-Christophe Bailly en dialogue avec Stéphane Bouquet et Martin Rueff. Ce sera le 24 mai à 19h. On vous met bien sûr toutes les références sur le site de France Culture à la page de l'émission. Merci à toutes les deux. Virginie Bloch-Lenné, on vous lit dans Libération et dans le magazine Elle, Anne Dugin. On vous lit dans la revue Esprit et on peut aussi lire votre recueil de poésie Noyau manquant aux éditions Gallimard. Cette critique et toutes les autres sont à réécouter sur le site de France Culture et sur l'appli Radio France.